à chaque jour sa part de découvertes d'horribles mensonges de ceux que ont été glorifiés, récompensés, ovationnés et enrichis sur le dos du monde entier sans l'ombre d'un soupçon de scrupule. Point combien de morts, d'handicapés par leurs mensonges. Le plus grand menteur franc-maçon. Point Pasteur Louis, 1822 à 1895, n'était pas médecin, ni même biologiste, il n'était que agrégé préparateur de chimie. Bravo le top. 28 mars 2021 rubrique. Actualité, tribune 3009 vues. L'imposture vaccinale. La France, pays de Descartes et de la rationalité scientifique, est tombée dans une bien étrange assuétude, la dépendance au vaccin. Si la France est bien la patrie de Descartes, elle est aussi, pour son plus grand malheur, celle de Louis Pasteur. La démonstration d'un fait scientifique par la méthode expérimentale ne repose que sur des mesures de laboratoire, reproductibles, vérifiées par d'autres scientifiques, et indiscutables. Premier mensonge ou péché par omission. Contrairement à ce que croit une majorité de Français, Louis Pasteur, 1822 à 1895, n'était pas médecin, ni même biologiste, il n'était que agrégé préparateur de chimie sans que l'on en sache plus sur cette dénomination, et pas très bon dans sa spécialité. La seule chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'était un travailleur acharné, il dormait moins de 4 heures par nuit. Dans les années 1850, Internet n'existait pas et Louis Pasteur était au courant de tout ce qui se passait dans le monde scientifique de l'époque. C'était un activiste, arriviste, il voulait la Légion d'honneur et il l'a eu, en 1853. Louis Pasteur fut le seul Français, à ma connaissance, à avoir bénéficié de son vivant du titre de bienfaiteur de l'humanité. Mais, quand on creuse un peu, on se rend compte que la réalité est bien loin de la légende. Tous les travaux que Pasteur s'attribua sans vergogne, furent en fait copiés sur d'autres scientifiques. La seule vraie découverte de Pasteur et dont personne ne parle jamais, c'est la serviette en papier jetable pour s'essuyer les mains. Pasteur était paranoïaque, il voyait des microbes partout, et il pensait, fort justement, qu'en s'essuyant deux fois les mains dans la même serviette on avait toujours les mains sales. La vérité. Pasteur n'a jamais découvert aucun micro-organisme, à l'origine, il n'y croyait d'ailleurs pas, attribuant la maladie à une faiblesse constitutionnelle. La découverte en incombe à un vrai biologiste, Antoine Béchamp, 1816 à 1908, docteur en sciences, en médecine et en chimie et diplômé en pharmacie, dont en France, le nom est toujours interdit de citer, lire sur internet le très intéressant article que lui consacre l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Antoine Béchamp avait appelé ces structures microscopiques, microzyma, parenthèse 3.1 Antoine Béchamp et la théorie du microzyma. Pasteur les a rebaptisés, microbes empruntant ce nom au chirurgien français Cédio, 1808 à 1875, point qui fut le premier à l'utiliser. Béchamp ne courait pas après la gloire, Pasteur si. Béchamp ne fut pas dupe des manœuvres de Pasteur, car il écrivit « Je suis le précurseur de Pasteur, exactement comme le volé est le précurseur de la fortune du voleur heureux et insolent qui le nargue, et le calomnie. Le théorème pasteurien, l'être humain, créature de Dieu est pur, et sans souillure, la maladie ne peut donc être provoquée que par une faiblesse constitutionnelle » puis, se ravisant, devant la démonstration évidente d'Antoine Béchamp sur l'origine de la maladie des vers à soie, sujet sur lequel ils travaillaient tous les deux, la maladie est provoquée par des agents extérieurs. En injectant cet agent dans le corps, on crée une réaction de défense qui protège de la maladie. N'oublions pas qu'à cette époque, milieu du 19e siècle, la médecine était d'essence religieuse, on croyait à la force vitale, impossibilité de passer du règne minéral au règne organique sans cette force vitale nécessairement d'origine divine, et à la génération spontanée le cadavre d'un animal pourri car il génère des éléments destructeurs sortis de nulle part, on croyait que les asticots de mouche étaient générés par le cadavre. Béchamp n'était ni vitaliste ni ne croyait à la génération spontanée, ce qui n'était pas le cas de Pasteur, tout du moins à ses débuts. Pasteur était opportuniste, et savait s'adapter à l'ère du temps, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. De ce théorème, jamais démontré, découle donc le corollaire, pas plus démontré, pour lutter contre les maladies et les épidémies, il suffit donc de vacciner, terme emprunté à gêner, massivement les populations avec le ou les agents responsables de ces maladies. À ce stade, on fait tout simplement l'impasse totale des connaissances que nous avons aujourd'hui sur le système immunitaire humain, et la génétique en général. Ce raisonnement implique que tous les humains possèdent le même système immunitaire, et que celui-ci répond d'une manière identique aux mêmes sollicitations extérieures. L'immunité de troupeau, prônée par Pasteur et ses disciples n'existe tout simplement pas, c'est une hérésie scientifique. L'hérésie scientifique. Au XXIe siècle, nous raisonnons, dans ce domaine particulier, avec des théories élaborées au XIXe siècle, et que personne ne semble remettre en cause. Il s'agit tout simplement d'une aberration de l'esprit humain, et de la négation de nos connaissances scientifiques actuelles. Le mensonge. Ce théorème induit un deuxième corollaire, chaque micro-organisme pathogène est responsable d'une maladie parfaitement identifiée. Faux, en matière scientifique la causalité unique n'existe pas, tout événement observable est le produit d'un enchaînement de causes. la suppression d'une seule de ces causes rend l'événement impossible. D'abord, qu'est-ce qu'une maladie ? À ce jour, je n'ai encore rencontré personne qui soit capable de répondre à cette question élémentaire. Les sommités médicales que j'ai pu interroger sur ce sujet n'ont pu me fournir qu'un sourire gêné en guise de réponse. Nous ne savons pas ce qu'est une maladie. Le mensonge. Pasteur a prétendu avoir vu le virus de la rage avec son petit microscope optique. Pour observer le virus de la rage, il faut un microscope électronique car la taille du virus est inférieure au pouvoir discriminant du microscope optique. Le mensonge. Les vaccins ont permis de mettre un terme aux grandes épidémies qui dévastaient l'humanité. La vérité. Au XIIIe et XIVe siècle, l'Europe fut dévastée par plusieurs épidémies de peste qui tuèrent des centaines de milliers d'individus. Ces épidémies disparurent pour ne jamais revenir. Qui a inventé le vaccin contre la peste ? Le mensonge. La variole a été éliminée de la surface de la Terre grâce au vaccin. La vérité. C'est l'OMS elle-même, pourtant entièrement à la solde des labos pharmaceutiques qui, en 1980, lança un appel à tous ses adhérents pour arrêter les vaccinations antivarioliques et détruire les souches virales encore détenues dans certains labos. Les dernières campagnes de vaccination s'étaient toutes soldées par une poussée épidémique quel que soit le pays où eut lieu cette campagne. Le mensonge. Les vaccins sont inoffensifs, et les accidents qu'on attribue aux vaccins ne sont que de tristes coïncidences. La vérité. Les vaccins sont des médicaments au même titre que les autres molécules de la pharmacopée et, à ce titre, ils sont dangereux et toxiques. Les médicaments tuent en moyenne 20 000 personnes par an en France, et les vaccins ne tueraient personne. C'est un miracle, et dans les labos, les miracles, ça n'existe pas. Se mettre dans la tête qu'on va éradiquer telle ou telle maladie, ou le virus responsable est une illusion dangereuse. Chaque fois que les humains vident une niche écologique d'un de ses occupants, la nature ayant horreur du vide, la niche va être occupée par un nouvel habitant souvent pire que le précédent. Tout ce que nous risquons, c'est d'éradiquer l'espèce humaine de la surface de la planète, mais la nature se passe très bien de nous. Ce que contient réellement un vaccin, une partie dite atténuée d'un virus ou bactérie que l'on croit responsable d'une maladie, des éléments de manipulation génétique comme les ARN ou ADN double brin. Des traces protéiques du milieu de culture, car on ne sait pas filtrer totalement la fraction vaccinale. Ce qui veut dire que si les protéines de culture sont polluées pour une raison ou une autre, le vaccin le sera aussi. Il contient également des adjuvants tels l'hydroxyde d'aluminium qui se révèle un redoutable toxique puisqu'il est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Le cerveau est le seul organe humain qui soit stérile, et qui doit le rester, y introduire un produit chimique amène des accidents graves. Pourquoi retrouve-t-on des traces d'aluminium dans les plaques amyloïdes de la maladie d'Alzheimer ? Les coupes qui servirent en 1906 à Alzheimer à décrire la maladie qui porte son nom existent toujours. Elles ont été examinées de nouveau avec nos techniques modernes, et il n'y a aucune trace d'aluminium dans ces coupes. L'aluminium trouvé dans les cerveaux, examen post-mortem, analysé et celui des vaccins. On y trouve aussi des traces de formaldéhyde, cancérogène de première classe, des sels de mercure, stabilisant, le mercure est un neurotoxique reconnu, personne ne peut le mettre en doute. Le vaccinalisme est une manie française. Chaque petit français doit recevoir entre 0 et 18 ans pas moins de 60 injections vaccinales. Les trucages des labos, il y a en France des obligations vaccinales, les labos s'ingénient à mélanger dans la même ampoule les obligatoires avec les autres, il faut bien faire marcher le commerce. Nous avions essayé de mettre au point une dose magistrale qui contenait 10 virus. Ils se sont bouffés entre eux, on n'a pas pu dépasser 6, ce fut l'Exavac une belle réussite commerciale et un calvaire pour les vacciner. Mis sur le marché en 2003 il a été retiré, sur recommandation de l'ASA en 2005. La théorie et le mythe pasteurien ne souffrent en France aucune discussion ni aucune contestation. La vaccination de masse est devenue une religion, on y croit sans voir, et sans preuve heureux celui qui croira sans avoir vu, et ce sont les opposants, majoritairement des scientifiques qui passent pour des illuminés, membres de sectes inavouées et inavouables. J'avoue, j'appartiens à cette redoutable secte des chercheurs qui ne croient pas au discours majoritaire. Claude Bernard, qui reste mon maître à penser en la matière, écrivait dans Introduction à la médecine expérimentale, 1865, « Le scientifique est d'abord un douteur. Où est le doute aujourd'hui ?» Ce fut aussi Claude Bernard qui arbitra le match. Pasteur vs Béchamp est, à la fin de sa vie, il eut cette phrase remarquable, « Béchamp a raison, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout, Pasteur est fou. » Phrase que l'on attribue aussi à Pasteur, donnant raison à Béchamp, ce qui est proprement impensable, sur la fin de sa vie, Pasteur eut un AVC qui le laissa hémiplégique, il perdit complètement la raison, et se lança dans des théories encore plus folles et plus fausses que celles de ses débuts. L'organisme humain est une merveille d'équilibre, entre ses propres cellules, et des cellules étrangères, virus et autres bactéries, c'est la rupture de cet équilibre qui provoque ce que l'on appelle maladie. Le système immunitaire n'est pas un jouet. Vacciné en bien portant, et l'on en fait un malade chronique. Le mensonge. Le tétanos, la rage, la poliomyélite ont été endiguées par la vaccination. La vérité. Ces trois maladies sont des maladies sans immunité, les toxi-infections ne passent pas par la voie sanguine. Le mensonge. La vaccination Aurore a permis de supprimer les maladies infantiles. La vérité. Ces maladies dites infantiles servent à la maturation du système immunitaire de l'enfant pour en faire un adulte en bonne santé. Avec l'Aurore, on a créé des souches mutantes de la rougeole et des adultes qui l'avaient eu enfant, l'attrapent sous une forme aggravée au contact de leurs enfants vaccinés. Le mensonge. Nos enfants deviendront centenaires. La vérité. Les centenaires d'aujourd'hui sont des personnes qui sont nées dans les années 1910, époque où il n'y avait pas de vaccinations obligatoires. On en reparlera dans quelques années. Toutes les études internationales arrivent à la même conclusion, les enfants à jour des vaccinations obligatoires sont globalement en plus mauvaise santé que ceux qui n'ont jamais été vaccinés. Le mensonge. Il faut vacciner les personnes fragiles pour les protéger. La vérité. Toute personne atteinte d'un déficit immunitaire ou souffrant d'une pathologie auto-immune est une contre-indication majeure à toute forme de vaccination. Pour qu'une vaccination soit réellement efficace, il faudrait faire un groupage HLA à chaque individu pour connaître l'état exact de ses défenses immunitaires. Trop cher. Répondent les autorités dites compétentes, et on vit avec les accidents vaccinaux qui ne sont officiellement que de la faute à pas de chance ou à des coïncidences malencontreuses. L'aveuglement des autorités sanitaires françaises nous conduit à une catastrophe sanitaire majeure qui a déjà commencé à bas bruit. Tous ces cas d'autisme soudain, d'hyperactivité, de cancers infantiles ne seraient dus qu'à des problèmes environnementaux. L'air pollué. La malbouffe. Disons que ça se cumule, et comme l'on ne connaît pas les synergies entre tous ces éléments, la prudence voudrait qu'on arrête les frais, et que l'on ne sacrifie plus nos enfants et petits-enfants sur l'autel du profit industriel. En conclusion, le principe de la vaccination de masse ne repose sur aucune base scientifique indiscutable et démontrée. Marc Jaspard, chimiste, biochimiste. 05-10-2012. Le serment d'Hippocrate numéro 1 au pays des droits de payer.tv KSOS.JE jure par Apollon médecin, par Esculape, IJ et Panacée, par tous les dieux, et toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces, et de mes connaissances, je respecterai le serment, et l'engagement écrit suivant. Mon maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai mon avoir avec lui, et s'il le faut je pourvoirai à ses besoins. Je considérerai ses enfants comme mes frères, et s'ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autres parties de l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon maître, aux élèves inscrits, et ayant prêté serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Dans toute la mesure de mes forces, et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager, et j'écarterai de tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir. Je ne remettrai pas d'ovules abortifs aux femmes. Je passerai ma vie, et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois. Je ne taillerai pas les calculeux, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s'en occupent. Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades. Je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que toute entreprise voluptueuse à l'égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai, et le considérerai comme un secret. Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puisse-je jouir de la vie et de ma profession, et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je viole, et deviens parjure, qu'un sort contraire m'arrive. Voici la preuve formelle. Comment l'Institut Pasteur empoisonne le peuple de France.